Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
À Paris, que voit-on lorsque l'on sort dans les rues ? Des humains pressés ou nonchalants, des véhicules à l'arrêt ou qui se traînent ou qui foncent stupidement, des arbres étiquent bien souvent. C'est tout ? Non. À Paris, il y a un autre monde. Lequel ? Le monde animal. Très peu visible, bien sûr, lorsqu'il s'agit de petites bêtes. Pour les nuits magnétiques, en 1991, Claude Farny et Jean Couturier les avaient traquées, ces petites bêtes. Des rats, des écrevisses, des fouines, des poissons, des grillons, à moins que ce ne soit des blattes, des araignées cavernicoles et quelques rapaces. Une émission qui vous fera voir la ville autrement, un inventaire, en l'air, dans l'eau, sous terre.
Nuit magnétique. Bonsoir. Cherchez les petites bêtes. À vendre, ruisseau à truite d'occasion, il faut le voir pour l'apprécier. Je suis entrée. Un vendeur s'est approché et m'a demandé d'une voix aimable s'il pouvait m'aider. Oui, je voudrais voir ce ruisseau à truite que vous avez à vendre d'occasion. C'est combien ? Nous le vendons au pied. Vous pouvez en acheter un petit morceau ou tout le lot, comme vous voudrez. Quelqu'un est venu ce matin qui en a acheté 563 pieds. C'était un cadeau d'anniversaire pour sa nièce. Il a ajouté « Nous vendons la chute d'eau à part. Les arbres, les oiseaux, les fleurs, l'herbe et les fougères sont en supplément. Les insectes, nous les donnons en prime pour tout achat de 10 pieds minimum. C'est combien ? 6,50 $ le pied pour les 100 premiers pieds. Après, c'est 5 $. Et les oiseaux ? 35 cents pièce. Mais ils sont d'occasion et nous ne les garantissons pas. Quelle largeur fait ce ruisseau ? Il fait entre 5 et 11 pieds de large, sans supplément. Il n'est pas très grand, mais c'est un ruisseau très agréable. Et quelle sorte d'animaux avez-vous ? Il nous reste 3 cerfs. Ah, et comme fleurs ? C'est à la douzaine. L'eau est claire ? Monsieur, m'a dit le vendeur, je ne voudrais pas que vous vous imaginiez que nous vendons des ruisseaux boueux. Nous nous assurons toujours qu'ils sont clairs comme de l'eau de roche avant de les prendre. Et d'où vient celui-ci ? Du Colorado. Nous l'avons déplacé avec beaucoup de soin. Nous traitons nos ruisseaux comme si c'était de la porcelaine. On doit vous demander ça tout le temps, mais en ce qui concerne la pêche, excellente. Surtout de la truite brune, avec un peu de truite arc-en-ciel aussi. Combien valent les truites ? Elles sont vendues avec le ruisseau sans supplément. On ne peut pas savoir combien il y en aura ni de quelle taille, c'est la chance. Mais c'est un bon ruisseau, on peut même dire qu'il est excellent, à l'appât ou à la mouche. Il me dit cela en souriant. Où est-il ? J'aimerais bien le voir. Là-bas au fond, vous allez tout droit, puis vous tournez à droite. Vous ne pouvez pas le manquer. Les cascades sont en haut, dans le rayon de la plomberie d'occasion. Et les animaux ? Ceux qui restent sont derrière le ruisseau. Vous verrez une file de nos camions garés près de la voie ferrée. Vous tournerez à droite et vous irez jusqu'à la pile de madriers. Après, vous trouverez le hangar.
Alors là, on vient de trouver un indice d'une présence quasiment certaine des faucons. C'est-à-dire, on vient de trouver au pied d'une grande tour une petite boulette qu'on appelle en fait une pelote de réjection. Pelote de réjection parce qu'en fait, les oiseaux les recrachent par le bec et ils recrachent en fait dans cette pelote tous les restes indigestes. Donc ils ne peuvent pas assimiler. En voilà une deuxième là. Donc on est en train de les chercher entre les dalles de béton. On va peut-être même un petit peu tricher en soulevant une dalle pour essayer d'en trouver quelques autres qui ont pu rester là déjà depuis peut-être plusieurs jours, peut-être une semaine. Donc en fait, on est en plein hiver. Et ce qu'on ramasse en ce moment, ça montre que ces oiseaux-là, même en dehors de la période des nids, en dehors de la période de nidification, peuvent être présents sur cette grande construction, sur cette grande bâtisse, et qui viennent s'y reposer, sans doute pour digérer, après avoir capturé leur proie dans le bois de Boulogne, ou peut-être dans quelques terrains vagues à proximité. Donc voilà une troisième pelote qu'on vient de trouver.
Ce petit bout là.
Alors là, il y a un tout petit bout, parce que quelquefois, elle tombe de tellement haut, là.
Bah oui.
D'après ce qu'on a pu remarquer à l'extérieur, on dirait qu'ils sont installés au 26e, au 27e étage, et donc les pelotes, elles font la descente. Alors avec le vent, elles ne tombent pas toujours à la pique directe. Donc là, manifestement, en voilà une autre, oui. Oui, c'est très bien, celle-ci, oui, alors, elle est vraiment remarquable. Là, oui, là, c'est vraiment typiquement la pelote...
Éclatée.
Éclatée par un saut d'une cinquantaine de mètres. Alors là, c'est marrant. Parce que vous voyez, quand je la prends, celle-ci, elle se désagrège complètement, alors que celle-ci se tient beaucoup mieux. Alors il y a une différence quant au contenu. C'est-à-dire que lorsqu'elle se désagrège complètement, là, ce sont des petites plumes qui constituent l'enveloppe, qui constituent la bourre. Et ces petites plumes sont beaucoup moins consistantes, beaucoup moins solides que celle-ci, par exemple. Où là, manifestement, ce n'est pas des petites plumes, ce sont des poils. Donc selon ce que les faucons ont mangé, on peut trouver dans le contenu des pelotes soit des petits restes de poils avec des petits os, qui sont des têtes, des crânes généralement de rongeurs, des mulots, des campagnols en particulier. Et puis d'autres fois, on peut trouver d'autres os enrobés dans des plumes. Et là, ce sont des petits passereaux. Et c'est très souvent le moineau qui a fait les frais de la chasse du faucon cresserelle. Donc là, on suppose qu'ils sont là-haut. On suppose qu'ils sont là-haut. Et si on regarde mieux, donc là, on va prendre un peu de recul. Et avec un peu de recul, on va essayer d'observer. Alors, avec les jumelles, là, ça y est, là, maintenant, on fait le point et il y a manifestement des coulées blanches. Donc ça, c'est les traces de fiente. Ça veut dire que ces oiseaux-là sont présents suffisamment longtemps pour émettre leur déjection. Et donc, ces coulées de fiente blanches, vraiment, sont bien la preuve que ce site-là est occupé. Donc là, on est dans un site quasiment futuriste de l'architecture du 21e siècle. Et même dans une espèce de dans cette façade-là, lisse, ils ont quand même trouvé dans la carapace une faille pour pouvoir s'installer. Bon, ce qu'il faudrait maintenant s'intéresser, c'est de savoir s'ils peuvent vraiment y nicher, s'y reproduire, quoi, en période de reproduction.
Bien.
Bonjour. Bonjour, je suis service sécurité de UAP.
Donc,
bonjour. Enchanté, je suis chargé de vous accompagner. Bon, bah écoutez, on va aller voir un peu ces points-là. Alors, je pense des endroits que vous avez repérés.
À la pique du retour, on était, c'est là qu'on a trouvé les pelotes. Donc on pense qu'ils sont au niveau du 26e ou 27e étage.
Technique, alors.
Voilà, donc c'est un local, on ne connaît pas sa nature.
Oui, c'est un local de climatisation, donc ce sont des prises d'air.
Ouais.
Et en pointe, ce sont des gaines de rejet d'air.
Ouais.
Donc de l'air, on rejette de l'air chaud. Hein.
Ouais, ouais.
Donc il y a peut-être une relation, un microclimat qui leur convient.
C'est possible.
Et vous savez déjà depuis un moment qu'il y a des rapaces.
Bon, les rapaces, on les voit. Hein, on les voit la journée tourner.
Ouais,
les employés des bureaux les voient tourner.
Ouais, ouais.
Mais les voir se poser, non. La journée, non. Par contre, la nuit, on aurait vu des rapaces se reposer sur le sommet de la tour.
Sur le sommet.
Voilà. On n'a jamais repéré de branchage qui pourrait se faire supposer qu'il y ait des nids.
Mais justement, la particularité de ces petits rapaces-là, c'est qu'ils posent leurs œufs directement à même la plateforme. Vous voyez ?
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'amener des matériaux. Donc il n'y a rien qui ressemble au nid tel qu'on le conçoit généralement.
D'accord.
Sous la forme de petites branches, réunies. Donc même si vous n'avez pas trouvé de petites branchettes en question, ça peut quand même laisser la possibilité pour les oiseaux de construire leur nid à cet endroit-là.
Moi, je les ai vus apparaître, ces oiseaux, lorsque le chantier de la défense s'est installé sur ce qu'on appelle la fin de la défense.
Hein.
Donc 86, oui, mais je pense que ça remonte peut-être même un peu avant. Alors celui-là, nous, on n'y faisait pas attention parce que on voyait donc ces oiseaux tourner. Mais c'est vrai qu'ils sont là depuis fort longtemps. personne leur fait peur. On n'a pas remarqué ni de coups de feu, ni d'autres projectiles qui pourraient les effrayer, non. Mais ils n'ont pas l'air d'être affolés quand ils tournent autour du bâtiment.
De toute façon, à la hauteur à laquelle ils s'installent apparemment, là, si c'est bien dans ce local technique, ils sont pratiquement à l'abri de toute agression.
Ils sont à l'abri total des agressions, ouais. Mais enfin disons que agression humaine, hein, mais disons, agression bruit, il y a du bruit puisque c'est un local technique, hein, donc le démarrage des ventilateurs, toute la vie technique de ce local fait qu'il y a du bruit. Hein. Oui, parce que... Bon, au départ, nous, on pensait à des éperviers. Oui. L'épervier, bon, c'est ce qui se rapprochera le plus. Oui. Parce que la buse, c'est quand même beaucoup plus gros. Et après, donc, il s'est dit que c'était des faucons. Oui. Mais enfin, si vous voulez, on n'a pas eu la certitude jusqu'à présent.
Oui, oui. Donc là, c'est des... Bon, si vous voulez, on en connaît en tant qu'association sur la région parisienne. Sur Paris Intramuros, on a trouvé 20 couples. En prospectant systématiquement les grands monuments, les grands bâtiments, Notre-Dame, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Et on s'est dit, bon, il doit y en avoir aussi dans des constructions très très élevées comme à la Défense. Mais là, on est dans une architecture tellement différente que c'était quand même pas du tout évident.
Bon, alors, donc ici, nous sommes au 27e, donc sur le pignon Colline. Colline, c'est la façade qui est tournée sur Courbevoie, donc la partie nord du bâtiment. Et nous sommes à peu près à 90 mètres de hauteur. Et ce sont les gaines de rejet conditionnement. Donc on rejette de l'air chaud.
Un petit peu en dessous de nous, là, en ce moment, on a quand même une plateforme.
Là, vous avez une plateforme. Oui. Si vous voulez, c'est une partie métallique.
Voilà, oui.
Puisqu'après, la gaine poursuit.
Oui.
La gaine verticale poursuit dessous. Donc c'est une partie qui est plane.
Oui, oui. Mais ça, si vous voulez, là c'est immense. Hein, ça,
c'est immense.
Et c'est complètement tranquille, c'est-à-dire personne ne peut jamais aller, accéder derrière.
C'est tranquille, personne n'y vient.
Donc ça, c'est une condition quand même déjà pour eux. À la fois, ils peuvent y accéder par l'extérieur. Hein, ils sont suffisamment petits pour se glisser là tout à fait entre ces lamelles métalliques.
Oui, à et une fois qu'ils sont 20 cm.
Hein, ah oui, là ils passent très facilement. Et une fois qu'ils sont de l'autre côté, bon, mais ils sont chez eux. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont une tranquillité absolue là.
Mais c'est un mystère qui est entier parce que nous, on a jamais vu donc d'oiseaux ou de rapaces dans ces gaines à l'intérieur.
Bon, là, je crois qu'on a fait le tour de la question. On ne peut plus accéder par l'intérieur, on ne peut pas voir sur un nid, ce qui est certainement pourtant là. Et donc, il ne nous reste plus qu'une possibilité, c'est peut-être de rechercher par l'extérieur du bâtiment.
La seule possibilité que je vois, c'est l'extérieur, donc à partir de la nacelle, la nacelle de nettoyage. Mais maintenant, il faut attendre le printemps, que les appareils soient sortis. Et puis, on regardera, donc on observera. Et à ce moment-là, en ayant l'objet de découvrir peut-être un nid ou la présence donc, de ces rapaces.
La Défense et Dominique Robert qui est passionné de faucons et qui est responsable du centre ornithologique de la région Île-de-France, et je continue à chercher les petites bêtes. J'avais beaucoup aimé un haïku qui dit « Les hommes et les insectes, les écoutons-nous avec les mêmes oreilles ?» Et je me suis demandé si les hommes et les animaux, on les regardait avec les mêmes yeux. Et j'ai rencontré effectivement des gens qui regardaient, qui écoutaient aussi, et qui avaient vu énormément de choses, soit par passion, comme cet ornithologue amateur avec qui on vient de passer un moment. Ou alors par profession, comme Madame Saint-Giron, qui a longtemps été mammalogiste au Muséum d'Histoire Naturelle avant de prendre sa retraite.
Si on cherche bien, on pourrait dans les parcs trouver des mulots et probablement des petits campagnols, parce que on trouve ces animaux dans les pelotes de réjection des rapaces. qui évidemment chassent en ville, mais chassent surtout dans les parcs, dans les jardins, Vincennes, le bois, etc. On peut aussi trouver des animaux qui seraient peut-être plus inattendus, ce sont les chauves-souris. Alors, on les trouve dans deux endroits, en particulier dans les arbres creux, dans les parcs, lorsqu'on abat les arbres pour refaire des plantations. On trouve souvent dans les arbres creux des chauves-souris en train d'hiberner. Et puis alors, on les trouve aussi dans des sites qui remplacent un peu les grottes, si vous voulez. Et il y en a d'ailleurs, tout récemment, on a trouvé des pipistrelles. La pipistrelle, c'est une toute petite chauve-souris qui a un vol comme un papillon. C'est la plus petite de nos chauves-souris, quelques grammes seulement. Et on vient d'en trouver, je ne dis pas en grand nombre, bien sûr, mais enfin, en nombre assez important, tout simplement dans les souterrains du chemin de fer de Ceinture. Malheureusement, il est question de remettre ce chemin de fer en activité, et du coup, les chauves-souris vont s'en aller. Elles iront ailleurs, bien sûr, mais enfin, c'est toujours une perte dans les populations de ces animaux qui sont fort utiles en mangeant nos moustiques et les petits insectes piqueurs. Dans les arbres, on peut trouver des chauves-souris un peu plus grandes qui s'appellent des noctules, qui se déplacent beaucoup plus loin. Et puis, épisodiquement, d'autres espèces, comme les oreillards ou les sérotines. Dès qu'on arrive en banlieue, elles sont beaucoup plus fréquentes. Dans les greniers, dans les églises, les combles des églises, les tours. Il y en avait à Saint-Sulpice autrefois.
Donc en ce moment, en plein hiver, elles sont...
Ah ben à ce moment, tout le monde dort. C'est pas... On ne les voit pas, évidemment, sauf quand elles sont dérangées. D'ailleurs, autant rappeler qu'il ne faut jamais déranger une chauve-souris en plein hiver, parce que, évidemment, elle va se réveiller, elle va sortir pour essayer de trouver de la nourriture, puis elle n'en trouvera pas en cette saison. Alors elle se rendormira dans de mauvaises conditions et elle maigrira beaucoup. Et au printemps, lorsque viendra l'heure du réveil, si vous voulez, eh bien, à ce moment-là, il y a de forts risques de maladie ou de mort.
Le bruit de la chauve-souris voletant dans le fourré est sombre.
Il y a aussi un animal dont on n'a pas parlé et qui vit en ville, qu'on trouve plus dans la banlieue qu'en plein Paris, bien sûr, ce sont les fouines. Les fouines sont des petits carnivores, et des petits carnivores qui se sont très bien adaptés à la vie avec l'homme. D'ailleurs, il est probable que quand le chat n'existait pas en France, il y avait pour chasser des animaux dans les maisons des genettes, mais aussi des fouines. C'est assez probable dans les fermes. Et la fouine vit très bien à Paris. Elle se nourrit de tout. Elle fait les poubelles. On trouve dans les crottes de fouines des débris de côtelettes de moutons, des pots de saucisson, beaucoup de pots de saucisson. Mais enfin, ça, c'est du saucisson jeté. Et alors, les fouines se nourrissent très bien. Et puis font la chasse aux rats et la chasse aux souris.
On m'a dit qu'il y en avait à la Chambre des députés.
Ben c'est un bruit qui court. Alors je trouve ça très amusant, mais il court depuis assez longtemps et personnellement ça ne m'étonnerait pas. Il y a des écureuils aussi quelquefois, surtout autour des parcs bien entendu, le petit écureuil roux, il n'y a plus beaucoup malheureusement. Et puis alors on a lâché dans les parcs, dans le bois de Vincennes ou ailleurs, on a lâché des tas d'animaux. Et alors on trouve des choses curieuses, on a trouvé une genette, la genette est un joli petit carnivore, on a trouvé une genette au bois de Vincennes. On a trouvé des fennecs aussi, qu'on a lâchés, tous ces animaux survivent quelque temps, bien sûr, ne se reproduisent pas, sauf si c'est une femelle gestante, mais elle a peu de chance d'élever ses petits. On trouve des écureuils de Corée, on trouve des écureuils américains, Enfin, fort heureusement, il ne se développe pas et n'attaque pas nos espèces autochtones, qui, elles, sont évidemment bien mieux habituées à leur mode de vie que ces nouveaux arrivants. En dehors de ça, comme animaux, ben, autrefois, il y avait des loutres dans la Seine, bien sûr, il n'y en a plus. Ça, c'est le manque de poissons, la pollution, enfin, etc. C'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, il y avait des castors. La Bièvre, c'est la rivière qui veut dire le castor. Maintenant, elle est couverte et passe aux gobelins. C'est un égout, d'ailleurs, c'est pour autre chose, actuellement. Les renards, oui, on n'en a pas parlé, mais ce sont des animaux qu'on trouve quand même qu'en banlieue. Mais on en trouve beaucoup en proche banlieue. Ils se nourrissent ben, un petit peu comme les fouines dont on parlait tout à l'heure. Ils se nourrissent dans les poubelles. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent comme cadavres, petits cadavres de rongeurs. Ils vont chercher les oiseaux, bien entendu. Et puis les poubelles, surtout. Ils sont ce qu'on appelle, dans notre jargon, opportunistes. C'est-à-dire qu'ils se jettent sur la nourriture qu'ils trouvent. Les renards mangeaient des lapins. Après la myxomatose, eh bien, ils se sont mis à manger des rats. Et ils en mangeaient beaucoup. On trouvait... Oui, des rats des... Et nous, j'ai connu un dépôt d'ordures. Les mammalogistes travaillent beaucoup sur les dépôts d'ordures parce que beaucoup de bêtes y viennent pour se nourrir. Et on trouvait des renards qui venaient manger les... On les voyait qui mangeaient les rats. Les rats venant normalement sur les dépôts d'ordures. Les grands-ducs aussi, d'ailleurs, vous savez, des gros oiseaux rapaces. C'était mis à manger, au lieu de lapins, c'était mis à manger des rats, oui. Bon, bien sûr, il y a quelques hérissons dans les parcs aussi, parce que le hérisson est un animal extrêmement sympathique. Alors, beaucoup de gamins les rapportent des vacances. Et puis, élever un hérisson en appartement, c'est pas toujours commode. Alors, on le relâche dans le jardin ou bien dans les petits parcs.
Jardin de l'Observatoire qui se situe entre l'avenue d'Enfer Rochereau et le Faubourg Saint-Jacques.
Vincent Lacroix est jardinier en chef de l'Observatoire de Paris.
Enambou est terminé par le boulevard Arago. La surface à peu près est de 3,7 hectares, 4 hectares. La nuit, il n'y a pour ainsi dire aucun véhicule qui circule, il n'y a pas de passage de public. Le parc est assez bien isolé, on n'entend pas le bruit des voitures et tout. Alors beaucoup d'espèces d'oiseaux viennent se nicher ici parce qu'ils sont tranquilles, ils peuvent faire des nids qui ne sont pas détruits parce qu'on y fait très attention, parce qu'on considère que nous sommes un peu privilégiés d'avoir un parc comme celui-là en plein Paris.
Quel genre d'oiseaux est-ce que vous avez remarqué dans ce jardin ?
Nous avons quantité de moineaux, bien sûr, des merles, des ramiers, des pigeons ramiers, des troglodytes, des mésanges, des bouvreuils et des rouges-gorges. Oui, nous avons découvert un rapace nocturne à l'intérieur d'un tilleul. Le hasard a voulu que nous le découvrions en tapant sur l'arbre où il s'est sauvé. Alors on pense que c'est peut-être un tidu, que ça serait une chouette chevêche, un hibou, on ne sait pas exactement. Mais nous y tenons énormément parce que on a constaté que depuis un certain temps, elle vivait là. on évite de la déranger au maximum, et elle a fait son, disons, son nid, son logis dans cet arbre-là, et on voudrait conserver ce type de variété d'oiseaux qui se perd de plus en plus sur Paris. Alors là, maintenant, je vais vous montrer l'arbre sur lequel elle vit. Vous pouvez voir là-haut, c'est ce trou-là, où elle niche tout le temps. Parfois, nous travaillons à proximité, elle est là dehors, elle nous observe, nous l'observons, et elle ne bouge pas, elle n'est pas craintive. Parfois, quand elle est sortie, des vols des tourneaux ou des merles viennent l'agacer. Viennent sur cet arbre, et est-ce qu'elle a des réserves de nourriture dans son nid? Est-ce qu'ils n'aiment pas peut-être sa compagnie ou en ont peur? Alors ils viennent et on a l'impression que, comment on pourrait dire, ils la titillent, ils l'embêtent un petit peu, donc elle s'envole. Et quand on voit la masse qu'elle représente, heureusement que les autres oiseaux viennent en bande, parce qu'un oiseau tout seul face à elle ne ferait pas long feu.
Bon, on va peut-être essayer de la faire sortir,
oui,
alors.
Oui, si vous voulez, on pourrait la faire sortir ici. Alors, je vous conseillerais de vous reculer un tout petit peu, si vous voulez, parce que en général, il y a quelques branches qui la gênent. Alors, quand elle sort, elle plonge au niveau du sol. Elle fait un rase-motte, on peut appeler ça, à 50 cm du sol. Elle passe entre les arbustes parce que la partie qui a 10 mètres d'ici descend d'un seul coup. Donc, elle se retrouve après une vingtaine de mètres avec à peu près 10 mètres de hauteur. Donc, elle est très bien pour s'envoler. Et elle va se nicher dans des arbres qui sont un peu plus loin, des sophoras, qui sont assez gros, où elle peut se nicher et se cacher dedans. Alors là, je vais taper dessus. Qu'elle est dedans, où elle dort. Elle ne bouge pas, elle n'est pas là. Sinon, elle serait sortie.
Elle est sortie, donc.
Elle est sortie. Au milieu de tous ces oiseaux, il y en a un qui a une particularité un peu bizarre, c'est le piquet-pêche, que nous avons pu constater que autant il tape sur les arbres que par moments, on ne sait pas, il vient à s'énerver sur la coupole, sur le paratonnerre, sur des parties métalliques, et on a l'impression qu'il fait comme de la transmission de morse, qu'il est en train de parler avec d'autres, ou avec peut-être des ancêtres de la maison, il communique, et on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y arrive. Il prend n'importe quelle position, il peut taper autant la tête en bas que la tête en haut. Il niche dans des trous, à l'intérieur des arbres. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'oiseaux ici, étant donné que les arbres sont tellement vieux que tous les trous qu'il y a dedans leur permet de trouver des nids, de faire une nidification à l'intérieur sans avoir besoin de construire de nids. Quelques-uns construisent des nids ici, ce sont les troglodytes, qu'on voit beaucoup, qui piquent aussi les troncs, qui mangent à l'intérieur des troncs, tout ce qui est petits insectes, et qui eux font dans les haies et dans les massifs d'arbustes de persistants qu'on a ici, donc ça leur permet de se cacher, des nids assez ronds, avec la particularité qu'ils ont une ouverture latérale sur le côté, et on les repère par rapport aux autres nids des merles, qui sont beaucoup plus hauts dans les arbres, beaucoup plus protégés. Le rouge-gorge, quand on fait des bêchages ou qu'on travaille la terre, est un de nos amis, parce qu'il vient continuellement nous voir dès qu'on retourne un peu de terre, et nous permet de temps en temps de faire des moments de pause, parce qu'il a même, étant donné qu'il est si peu craintif, qu'il se pose sur le haut de la bêche et on n'ose pas y toucher, et on le laisse faire pendant qu'il regarde. Alors on n'ose pas toucher à la bêche, ce qui nous permet de faire un petit temps de pause en le laissant, lui, se servir du haut de la bêche comme un point d'observation.
Il vient manger ce que vous avez dans la terre que vous avez retournée.
Voilà, il vient dès l'instant où on remue de la terre, à n'importe quelle période de l'année, il vient manger immédiatement autour de nous ce qu'il y a. Alors, en général, le rouge-gorge vit par couple. Ils sont que deux et ont un territoire très bien défini. Quand un autre mâle veut venir sur ce territoire, les deux mâles se battent et celui qui gagne récupère la femelle de l'autre. Et l'autre femelle qui n'a plus de mâle est obligée de s'en aller, et on pense qu'elle part se laisser mourir dans un endroit... on ne sait pas où, mais ils vivent dans des territoires qui sont très bien définis, des territoires de vol, et ils ne supportent pas qu'un autre rouge-gorge vienne sur leur territoire. C'est bien à eux, c'est bien particulier. Tandis que tous les autres, type merle, moineau et autres, viennent ici, sont par nichées entières, mangent ensemble. Alors pour nous, les merles, les pigeons ramiers et les moineaux sont au moment des quand on fait de l'engazonnement, les plus gros prédateurs qu'on puisse avoir, étant donné qu'ils mangent une bonne à peu près 50% du gazon qu'on sème. On essaie de faire des petits tas de gazon à droite, à gauche, pour qu'ils soient plus attirés par ces tas, plutôt que d'aller manger toute la partie qui a été semée. Oui, ils nous dérangent, mais sans nous déranger, on est content qu'ils soient là.
Si tu es tendre pour eux, les jeunes moineaux te feront dessus.
Les moineaux, on les appelle les moineaux parce que leur robe ressemble à la bure des moines. Et ils vivaient très souvent dans des monastères, parce qu'ils étaient protégés et autres. Donc on a surnommé ces oiseaux les moineaux, à cause de la similitude entre les deux robes qu'avaient les moines et l'oiseau. Ces passereaux profitent, en cette période, de manger le gui qu'il y a sur les arbres, les grappes de fruits dans le lierre. Et il y a une particularité, c'est que le moineau ne mange que la pellicule blanche du gui, qui est un peu collante, mais ne mange jamais la graine. Et nous avons la chance d'avoir derrière, parce que cette graine retombant sur l'arbre et la partie visqueuse se colle sur l'arbre, recrée une nouvelle branche de gui. Grâce aux mésanges, qui circulent dans le parc aussi, ces mésanges, elles, ne mangent pas la pellicule blanche, mais ne mangent que la graine. Donc, la chance qu'on a, c'est que le gui a du mal à se développer grâce aux mésanges qui absorbent cette graine, la cassent et empêchent une nouvelle fructification du gui sur les arbres. Nous installons un arrosage automatique à l'intérieur du parc et la ville de Paris nous avait, avec les relations qu'on a avec eux, prévenu qu'ils avaient certains problèmes dans des parcs, que les tuyaux en PVC, si on veut, en plastique, étaient mangés par les rats et étaient obligés de revenir à l'ancienne méthode du tuyau de plomb, parce que ça leur faisait des dégradations, des fuites partout, à cause de ces rongeurs. La chance de l'observatoire, c'est de ne pas avoir de rongeurs sur son campus, et ce qui nous permet de faire ces installations en plastique.
Est-ce que c'est arrivé que vous ayez des oiseaux qui se posent ou qui viennent s'installer pendant un temps de migration ?
Non, on n'a jamais constaté de migration, d'oiseaux migrateurs qui viennent sur le parc. Les seuls animaux migrateurs que nous ayons, ce sont les animaux que les migrateurs vacanciers nous laissent à l'intérieur du parc en se disant ils vont s'en occuper étant donné qu'ils aiment les animaux. Donc tous les ans, à la période de juillet-août, nous récoltons une dizaine de chats, nous avons eu des lapins, des chiens, mais au point de vue des oiseaux migrateurs, non, pas pour ça, mais des animaux domestiques, oui, on en a assez souvent.
Paris, ça n'est pas seulement la surface, c'est aussi toute une partie souterraine dans laquelle, curieusement, on retrouve des espèces qui vivent également en surface. Les égoutiers de Paris font souvent des rencontres assez étranges. C'est ce que m'a raconté M. Douillard et son équipe.
Vous avez des endroits, je peux les citer, parce que je connais bien, il y en a plus. Des endroits, si c'est un peu humide, vous avez pas mal de cafards. Mais on désinfecte pour ça. Donc c'est une population, ça revient, parce que des cafards, il y en a partout. Vous avez d'autres endroits, c'est des araignées noires. Vous avez d'autres endroits, c'est des petits moustiques. Donc mieux vaut fermer la bouche lorsqu'on parle. C'est toujours désagréable d'en avaler un. Vous avez beaucoup d'insectes qui arrivent à vivre là-dedans.
Et des chats qui se perdent.
Ben les chats, moi un jour j'étais en chercher un et j'ai jamais pu le récupérer. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait, c'était une petite ligne, ben le chat, rien à faire, on n'a pas pu le récupérer.
Un chat, si vous voulez, qui est tombé accidentellement, il est fou à l'intérieur. Il tourne en rond autour de la voûte. Moi, j'ai vu personnellement le cas une fois. Là, on a été obligé d'appeler les pompiers qui sont venus avec un filet. Hein. C'est eux qui sont chargés de l'attraper. Du fait qu'il a déjà vécu pas mal de temps dans l'égout, bon, et du fait qu'il est complètement fou, qu'il est devenu sauvage, vous ne pouvez pas l'approcher sous risque de morsure ou de griffure.
On peut peut-être quand même évoquer pour justement dire que c'est rien du tout, l'histoire des serpents et tout ça, que c'est...
Oui, tout à fait. Il faut complètement démystifier ces scoops journalistiques, je dirais, de dire qu'en égout, à Paris, nous trouvons, entre autres, des alligators ou des choses comme ça. Il y en a eu un, la pauvre bête, dans le milieu dans lequel on l'a mis. Je trouve que c'est dramatique parce que ce sont des gens certainement qui l'avaient dans leur baignoire ou je ne sais où, dans leur appartement. Ça, c'est des gens qui sont méprisables. Donc, ils ont voulu s'en débarrasser à partir du moment où cet animal a grandi, donc l'a mis dans l'égout, mais il y a eu un exemplaire d'alligator ou crocodile, hein, peu importe. Également de serpent. Il y a eu un boa que l'on a retrouvé qui était mort et qui avait été mis par une fête foraine qui il avait décédé dans une des cages et on avait soulevé le tampon. Ces gens-là avaient soulevé le tampon, ils l'avaient mis à l'intérieur. C'est les seuls cas que nous ayons eu à Paris. Donc il faut complètement démystifier ces choses-là.
Ce que je pourrais rajouter sur les crocodiles, apparemment, celui qu'on a retrouvé, c'est vrai, c'est des gens qui l'ont mis. Donc il peut alors, donc ça serait dire aux gens, s'ils ont des bêtes comme ça, qu'ils évitent de les mettre. Parce qu'apparemment, le crocodile, lui, il a l'air de bien s'adapter à ce milieu-là.
On n'a pas parlé aussi des poissons qui peuvent arriver en égout. Il arrive quelquefois que dans ce qu'on appelle les réservoirs de chasse, ce sont comme des grandes cuvettes, des chasses d'eau de toilette pour nettoyer les rues. Il arrive parfois que les œufs passent dans les canalisations et arrivent justement dans ces réservoirs. Et quelquefois, on retrouve des carpes qui font 20-30 cm, qui sont certainement aveugles d'ailleurs. On retrouve aussi des moules, énormément de moules, oui. Pour le lavage des rues, on emploie de l'eau, ce qu'on appelle brute, qui n'est pas filtrée. Donc il arrive que bon, des petites moules passent dans ces canalisations et grossissent ensuite dans ces canalisations.
Il y a deux sortes de rats sur Paris également. Il y a des rats qui font environ 10 cm de la tête à la queue, grosso modo, et puis ce qu'on appelle, nous, le rat noir. Alors, il y a certains endroits, effectivement, où ils se mélangent pas trop. Hein. Alors, il y a certains endroits, effectivement, où on a ces fameux rats noirs qui, là, sont déjà un peu plus gros et beaucoup plus longs.
Oui. Mais moi, j'ai eu l'occasion de voir un rat qu'on connaissait pas, et avec un autre collègue, un rat qu'on ne connaît pas la race. Hein. Et croyez-moi, énorme. Je vous assure qu'il avait la taille facile d'un chat, un beau chat, hein. Croyez-moi, hein. Et sans la queue. Hein.
Et les anciens, paraît-il, ils amenaient les queues, il fallait amener les queues de rats, naturellement. À l'époque, c'était pas un surveillant, c'était un chef principal. Ça, c'est une anecdote, mais je ne sais pas si c'est bien vrai, hein, pour avoir cette prime de queue de rats. Hein. Et puis, bon, bah, force, ils en ont eu assez. Ils ont dit, bon, bah, les queues de rats, c'est bien gentil, mais sur un bureau, ça fait pas chic. Hein. Alors après, ils nous ont payé des queues de rats forfaitaires, voilà. Donc on a une prime de queue de rat forfaitaire par mois, tous les mois.
50 centimes. 50 centimes par queue de rat, à concurrence de 5 queues de rat par mois.
Ça fait 2,50
par mois. Si, si. 2,50 par mois, c'est bien. Depuis 68, c'est toujours la même somme. Depuis 68, hein, c'est
non,
ça
hein. 68, c'était, en 68, c'était 4, on touchait 4 queues de rats à 0,50 francs. Là, maintenant, on a 5 queues de rats à 0,50 francs. Voilà. Fallait le dire. Mais enfin, on en tue pas mal. On en tue beaucoup avec le blé. Il y a des endroits, nous, on met des petits sachets en plastique. Il y a du plastique, le blé dedans. En général, on met ça dans des endroits secs. Hein. Mais je vous assure, on n'a même pas besoin. Moi, personnellement, je les mettais comme ça. Et quand il y avait beaucoup de population, de rats, ben, le lendemain, il n'y avait plus rien. Donc, on en met au fur et à mesure, on voit. À force, les paquets ne sont plus touchés. Et ce que j'avais remarqué aussi, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être une erreur de ma part, mais on parlait des cafards, des bêtes. Hein. Quand il y avait beaucoup de rats, il n'y avait pratiquement pas de cafards. Et quand il n'y en avait pas beaucoup, mais il me semble que la population de cafards revenait. Alors peut-être qu'ils se nourrissent aussi de... Et ça serait bien, parce que c'est désagréable.
Il arrive bien souvent qu'on intervient sur un secteur où c'est qu'il y a des petits, et puis que la mère ou le père, enfin, on ne peut pas déterminer, reste à proximité. Lorsqu'ils voient qu'il n'y a aucun danger, que nous, on ne s'occupe pas des petits, ou quoi que ce soit, qu'on effectue notre travail, on voit même le père ou la mère, donc, qui s'éloigne et qui n'a pas peur qu'on touche aux petits. Hein. Parce que bon, il ne faut pas croire que l'égoutier, il est fait pour tuer le rat, hein, au contraire. Donc, si on peut éviter de tuer ces animaux-là, on l'évite. Hein. Bon, à part mettre des graines ici et ça, mais de tuer, parce que c'est arrivé des fois qu'il y a des rats qui sont quand même assez tenaces. On est obligé de les tuer de nos propres moyens, quoi. Mais c'est quand même relativement rare. Hein.
On a un coup de botte.
Oui.
Un coup de botte dans le crâne.
Mais il reste à l'écart, le rat, en gros. Il ne vient pas, il attaque pas, par exemple.
Il peut attaquer. S'il est coincé dans une issue, il ne peut plus sortir. Mais là, il peut se rebiffer un peu sur la personne.
Ça, c'est le rat noir.
Là, il se rebiffe parce qu'il n'a plus d'issue, il ne peut plus sortir. Là, il peut sauter presque à la figure. Là, ça peut être dangereux.
C'est surtout quand il veut se sauver, quand il est prisonnier dans un cul-de-sac. Lorsqu'il est acculé dans un cul-de-sac, si vous voulez, si on continue d'avancer, bien entendu, c'est pas qu'il va vouloir vous attaquer. C'est pas ça du tout, mais il va vouloir se sauver. Comme toute bête sauvage, à partir du moment où vous pour lui, ça provoque un instinct réflexe, c'est-à-dire de se sauver. Donc c'est le problème, c'est surtout ce problème-là que nous rencontrons. Mais nous le connaissons, donc on ne continue pas d'avancer si vraiment le rat, on le sent fébrile et prêt à partir dans tous les sens. On recule et puis tant pis.
Mais le travail est quand même assez difficile à ce niveau-là, parce qu'on a des chutes souvent à nettoyer, des choses comme ça. Et éventuellement, les rats font souvent leur nid là-dedans. Et nous, on est obligé de faire notre travail. Et c'est là le danger de l'égoutier, quoi, en fin de compte. Il a un très grand danger à ce niveau-là, il faut être logique. C'est comme nous, hein, c'est les mêmes réflexes qu'un père de famille, une mère de famille. Hein, je pense que l'animal ressent la même chose. Hein, et apparemment, le rat, il le ressent beaucoup mieux que peut-être que certains humains, d'ailleurs, malheureusement.
Il m'est arrivé une fois, c'était à côté de la gare de l'Est. Et puis, en marchant dans l'égout comme ça, il y a un rat qui m'est arrivé sur l'épaule. Il est descendu sur mon bras. Ensuite, comme j'avais des grandes bottes, il est tombé dans la botte. Et puis bon, sur le moment, ça fait un petit peu peur, c'est vrai. Et j'ai commencé à me débattre. Et puis lui, il voulait s'accrocher pour remonter. Mais vu que je me débattais, puis il descendait. Après, j'ai compris. Bon, j'ai arrêté. Et petit à petit, il est remonté après mon pantalon. Et puis il est ressorti de la botte comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'il m'a mordu. Hein. Je sentais ses petites griffes comme ça, mais il m'a pas mordu, ni griffé non plus d'ailleurs. Voilà.
C'est fréquent chez l'égoutier. Souvent, bien souvent, il se sert le rat des épaules de l'égoutier pour passer d'une canalisation à l'autre. Hein. On s'y attend pas. C'est plutôt surprenant que dangereux en fin de compte, hein, en quelque sorte. Hein. Et bien souvent, on fait des remorques aussi. On se tient sur les mains courantes et tout ça. Le rat, il passe dessus. On s'en aperçoit même pas. C'est le collègue qui vous dit « Ah bah, t'as vu, t'as un rat qui est passé sur ta main. » Nous, on vit, en fin de compte, avec eux, en bonne communauté. Hein. Donc, voilà, c'est tout. Hein.
Vous les appelez rats entre
vous, hein. Vous avez... Oh non, c'est des Gaspers, c'est vrai, effectivement. Et puis, on peut même éventuellement leur donner des noms. Parce que moi j'en ai élevé sur certains secteurs. Enfin, élevé, c'est un grand mot. Mais je les accoutumais à moi. Quand j'ai dit au départ, je leur donnais du pain, tout ça, ils venaient tous les jours sur certains secteurs, c'est vrai.
Oui.
Ou alors on les sifflait, tout simplement. Ici, moi, j'en avais élevé un petit peu. Et c'est... Non, mais... Enfin, faut pas trop anticiper sur ces petits animaux très gentils, d'ailleurs.
Dans le musée, est-ce que vous avez mis des rats?
Non, on met pas de rats spécialement dans les endroits où on veut que les gens viennent visiter. Non, il y a effectivement des rats, mais si vous voulez, étant donné qu'à partir le matin de très bonne heure, il y a des gens qui sont ici qui nettoient systématiquement le musée, à partir du moment où on ouvre le matin, les deux trois rats qui vont s'être promenés vont partir. Ils vont avoir peur. À partir du moment où il y a du bruit, ils vont se sauver. Alors effectivement, il y a des clients qui ont eu la chance d'en voir un petit peu plus loin dans certaines rues ou dans le collecteur Bosquet. Là, c'est, si vous voulez, c'est l'accident, hein, ou l'accident plus ou moins dans le sens où le rat est curieux. Donc à un moment donné, il va venir voir, mais il va repartir pratiquement aussitôt.
Et est-ce que les gens sont curieux des rats?
Oui, tout à fait. C'est la question que l'on nous pose. Les gens nous demandent de voir des rats. Malheureusement, c'est les visites publiques des égouts, ce n'est pas le zoo. On ne peut pas les mettre en cage. Bon, ceux qui ont la chance de les voir, tant mieux pour eux. Ceux qui n'ont pas la chance de les voir, il y a bien d'autres choses à voir dans le musée, sans voir forcément les rats.
Même parmi les insectes, certains sont habiles au chant, d'autres non. François Turpin.
Oui, je répète, c'était il y a peut-être une bonne quinzaine d'années. Et puis, brusquement, un jour, j'ai pris conscience que dans le métro, il y avait certainement des grillons. Pendant un bon moment, je me suis demandé si c'était vraiment des grillons, parce que je pensais que c'était peut-être les bruits des joints de dilatation, enfin, vous savez, les rails qui font des petits crissements comme ça. Et puis, non, je me suis dit, ça ne peut être que des grillons. Et puis, au hasard de mes parcours comme ça, enfin bon, évidemment, j'allais pas entre les stations, mais je me suis rendu compte que il y en avait de plus en plus. Enfin, c'est l'impression que j'en ai eu en tout cas. Maintenant, peut-être que j'en ai pris conscience et qu'ils étaient déjà là depuis des années. Mais sur le moment, bon, je l'avais repéré du côté de, je crois que c'était Opéra. Et puis il y en avait que dans une station dans ce coin-là. Et puis après, je me suis aperçu qu'il y en avait dans d'autres. Je crois que c'était Chaussée d'Antin ou, enfin, des stations proches d'Opéra. Et de là est venue l'idée dans ma tête comme ça que peut-être que ils avaient fait souche à Opéra, et puis que petit à petit, ils étaient en train de prendre possession des, pas des couloirs du métro, mais des galeries du métro. Et puis c'est vrai que c'était une idée un petit peu, ça rappelle un peu les films de science-fiction, hein, enfin bon, mais enfin c'est tout finalement. Pour en savoir beaucoup plus, il aurait fallu faire une étude vraiment pointue, en demandant des autorisations à la RATP pour aller se promener entre les stations pour voir exactement ce qui se passait. Je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait bien turlupiné, là. Je me posais la question et je me disais, qu'est-ce qui se passe et d'où ils viennent, enfin. Et même à une époque, j'avais cru en voir plusieurs, et en fait, bon, c'était des blattes, parce qu'il semblerait aussi qu'il y a aussi des blattes qui se battent dans le métro. Et d'ailleurs, je pense que si des gens comme ça se promènent et voient des grillons de temps en temps dans le métro, parce qu'il doit bien de temps en temps y en avoir qui s'en vont des ballastes et qui vont se promener sur les quais, je crois que très souvent, ils doivent les prendre pour des blattes, parce que ça se ressemble beaucoup.
C'est des animaux donc qui sont installés dans le métro parce qu'ils ont chaud, finalement.
Ben oui, il semblerait qu'ils y trouvent à la fois la chaleur, c'est-à-dire, bon, évidemment, c'est un petit peu un... Enfin, le principe des grottes, quoi. Enfin, c'est un climat tampon, un climat sans gros choc, sans grosse différence thermique. Il n'y a pas d'hiver, pas d'été, enfin, pas vraiment. Et en plus, il y a la chaleur des résistances des voitures. Et que finalement, il y a plus de grillons, ils ont remarqué, les agents de la RATP ont remarqué qu'il y a plus de grillons dans les terminaux, là où les voitures stationnent. Apparemment, c'est très lié au fait que là où les voitures stationnent, c'est là qu'il y a le plus de chaleur distribuée par ces résistances des voitures. Puis il semblerait aussi que ça soit lié à l'humidité, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un minimum d'humidité pour la ponte. Donc c'est lié à tout ça. Et, puis c'est lié aussi, je suppose, à la nourriture. Et, mais enfin, la nourriture dans le métro, ça n'a jamais été ça qui manque, c'est les miettes de sandwich. Il y a tellement de miettes de sandwich. Moi, j'ai vu des ice cream complets, enfin... bon, à tel point qu'il doit y avoir d'ailleurs une grosse concurrence entre grillons, souris et rats dans le métro, parce que ça nourrit des familles de rats. Et alors, les grillons doivent nourrir, je pense que ils doivent nourrir un peu les souris de temps en temps. Il y a d'ailleurs des souris qui se font un petit sandwich de grillons de temps en temps. Il y a plusieurs espèces d'araignées qui vivent dans le métro, dans les galeries, qui sont des araignées cavernicoles, d'ailleurs, qui sont donc bien adaptées à l'obscurité, et qui se nourrissent de jeunes grillons. Ce sont des toutes petites araignées qui font entre 5 et 8 mm, enfin des petites espèces, donc qui se nourrissent de grillons à leur stade larvaire, des tout jeunes grillons, dont on peut penser, en tout cas, qu'elles participent à la limitation des populations de grillons.
Qui, de toute façon, ne présentent aucun danger pour personne ni pour rien.
Ne présentent aucun danger, qui, de toute façon, ne nous envahiraient pas. Et quand même, ils nous envahiraient, ça serait peut-être une invasion bien agréable d'être envahi par les grillons. Et j'ai lu dernièrement là, plusieurs articles de journaux. Ça marche très fort en ce moment dans les journaux. Quand on a un trou à boucher, on bouche le trou avec le sandwich au grillon ou avec les grillons sautés au beurre ou les grillons. C'est un truc qui marche très fort. On sent un petit peu l'approche de l'an 2000. On s'imagine qu'il y a les fléaux, les grandes famines, la fin du monde. J'en sais rien. Toujours est-il que dans beaucoup de revues, est-ce que je peux vous en citer des noms, enfin je sais pas, VSD oui. ou d'autres, on trouve des articles sur faites votre sandwich au grillon ou bien faites votre repas de grillon. Et alors, comment monter un élevage de grillon? C'est un apport de protéines qui n'est pas négligeable. Un élevage de grillon pourrait servir pour nourrir tant de personnes. Il faudrait tant de grillons pour nourrir tant de personnes. Voilà. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais en ce moment, ça marche très fort. Ces derniers mois, il y a eu au moins 3 ou 4 articles qui sont parus sur ce sujet. Sans que je sache d'où ça... Peut-être qu'il suffit d'un article pour lancer le truc, et puis après, il y en a d'autres qui s'en emparent. Et alors, évidemment, on arrivait très vite à parler des fameuses chenilles qui sont consommées dans une grande partie de l'Afrique, qu'on consomme sautées, mais enfin bon, on arrive à des tas de choses comme ça, mais ça partait du grillon domestique. C'était curieusement. Alors, je sais pas...
Et puis, vous m'avez aussi parlé d'une expérience d'un de vos collègues, quelqu'un qui travaille avec vous, qui s'est trouvé devant un drôle de papillon.
C'était un menuisier, en fait. Il est menuisier, ce monsieur. Et un beau jour, il arrive près de sa voiture, en fait, au petit matin, pour prendre sa voiture, pour aller au boulot. Et puis, de loin, sa femme lui dit, mais t'as vu les raflures? Il y avait une énorme éraflure sur sa voiture, comme ça, de loin. Alors, il était un petit peu paniqué. Il s'approche, et puis l'éraflure, c'est pas une éraflure, c'était un énorme papillon qui devait faire 10 à 12 cm d'envergure, enfin, quelque chose d'énorme, qui était posé sur sa voiture et qui ne bougeait pas. Et puis, effectivement, de loin, ça avait toutes les apparences d'une grosse éraflure, mais enfin bon, c'était pas une éraflure. Et alors, comme il savait que moi, je m'intéressais un petit peu aux petits animaux, enfin, m'intéressais, il m'a demandé ce que ça pouvait bien être. Puis c'était chez lui, le papillon il l'avait gardé, il l'avait mis chez lui, et puis bon, et puis on en est arrivé là, avec ses descriptions. Je lui montrais un bouquin de détermination et on est tombé sur le Bombyx de l'Élante, qui est certainement le plus gros papillon d'Europe, mais qui est un papillon qui a été importé à peu près à la même époque qu'on a importé l'Élante, qui s'appelle l'Élante de Chine, qui est un arbre qui vient donc d'Extrême-Orient. Et puis apparemment, le papillon lui a fait souche, peut-être des individus échappés d'élevage, enfin on n'en sait rien, mais en tout cas il a fait souche. Dans la région parisienne, on en trouve régulièrement. Enfin, peut-être parce que il y a moins de prédateurs en ville qu'à la campagne. Il y a moins d'oiseaux ou de ces petites guêpes, vous savez, qui parasitent les chenilles. Donc, peut-être à cause de ça, il a fait souche à Paris et en pleine agglomération parisienne, alors que c'est tout à fait inattendu. Enfin, on trouve ce papillon là, qui est nocturne, hein, il faut bien le dire. Donc peut-être que ça l'aide justement à passer inaperçu.
Non, celui-là, il est sauvage et parisien. Enfin,
si on peut dire sauvage et parisien, mais c'est le cas. Il est sauvage et parisien. Un peu comme les grillons du métro ou comme les souris de... Ils sont, tout ça, c'est sauvage et parisien. Je crois que c'est possible.
Tombé de la branche, une fleur y est retournée. C'était un papillon.
Je revenais de la forêt de Saint-Germain un soir, et puis, bon, on s'était attardé, on avait été se promener en forêt assez tard, comme ça, pour essayer d'écouter le coucher des oiseaux, les ambiances sonores de la forêt le soir, et puis on revenait, il faisait nuit, et puis brusquement, oui, c'était boulevard Carnot, là, ça doit être au Vésinet, en tout cas, quand on vient de Saint-Germain, là, on prend cette ligne droite, au milieu du boulevard Carnot, toute bondissante, là, vraiment, mais comme un ressort, il y avait cette fouine là qui nous regardait un petit peu ébloui par les voitures, il y avait personne derrière, donc j'ai pu bien freiner et puis on a attendu qu'elle traverse. C'est vraiment une vision, bon, très fugitive mais inoubliable. Enfin, la beauté et la grâce d'une fouine, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Il faut avoir l'œil, il faut sortir la nuit de temps en temps, c'est vrai, mais ce sont des rencontres qu'on peut faire.
Dans une ville comme Paris, tous les lieux de circulation des hommes, ciel, rue, jardin, en surface, métro, égout, sous terre, sont investis par une infinité de races animales, plus ou moins sauvages, mais qui s'y trouvent parfaitement à l'abri. Les seuls que les hommes aient le droit de chasser sont les habitants des cours d'eau, la Seine et les canaux. Monsieur Armirail, président d'une association de pêcheurs parisienne.
On peut dire que dans Paris, à l'heure actuelle, il y a du poisson dans tout ce qui est plan d'eau et tout ce qui est rivière, fleuve, comme la Seine, ou les canaux, comme tous les canaux Saint-Martin, Saint-Denis, Canal de l'Ourcq. Et on peut dire même que la Seine à Paris est considérée comme, et dans la région parisienne, une des rivières les plus poissonneuses de France. Le nombre d'espèces qu'on trouve à l'heure actuelle, 32 espèces présentes, dont 16 courantes. Alors principalement des espèces dominantes cyprinidées, de la famille des gardons, de la carpe, toutes les familles de la carpe et tout ça. Et puis son cortège de carnassiers traditionnels, des autres deuxième catégorie, c'est-à-dire le brochet, le cendre, la perche, si on veut y rajouter le chevesne, un peu de truite, et puis un nouveau venu, le silure glane, qui est notre plus gros carnassier d'eau douce à l'heure actuelle. C'est un poisson assez intéressant, écologiquement parlant, puisque c'est le seul prédateur de certaines populations de gros poissons et qui aurait tendance à pulluler, un peu comme la brème. Alors ce silure est un poisson qui fait rêver pas mal de pêcheurs à l'heure actuelle, puisque c'est un très gros poisson, puisque sa taille peut arriver à 2 mètres maximum. Alors, au bois de Boulogne, nous avons le lac inférieur, qui est le grand lac de 11 hectares, qui est surpeuplé en brème et en écrevisse américaine. Donc nous avons transféré toutes ces populations, et à l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a, toute taille confondue, à peu près 500 têtes sur ce plan d'eau. Et je peux vous dire que depuis un an qu'on a commencé à mettre ces poissons dedans, on a des pêcheurs qui viennent de fort loin justement pour en découdre avec, parce que c'est un poisson très impressionnant au bout de la ligne, et puis en plus qui n'a rien pour gâter, qui est gastronomiquement excellent.
Vous lancez dans la conversation qu'il y a des écrevisses, mais bon, dans Paris, ça paraît quand même très curieux.
Et oui, ça paraît curieux, et puis l'écrevisse, c'est la petite bête qu'on ne voit pas, qui vit dans le fond. Alors le problème de l'écrevisse, il faut savoir qu'en France, on a à l'heure actuelle à peu près 6 espèces d'écrevisses, dont 4 espèces qui sont des espèces autochtones, si on veut. Mais ces espèces autochtones sont surtout des écrevisses qui vivent dans des ruisseaux de première catégorie. Donc dans les eaux de deuxième catégorie, il n'y a qu'une espèce envahissante à l'heure actuelle, c'est la fameuse écrevisse américaine, qui n'atteint pas de grosse taille, mais que les gens aiment bien. Enfin, c'est un travail pour les manger, mais c'est excellent. Et puis une autre espèce, l'écrevisse de Louisiane, qui est une bestiole phénoménale, qui grossit à une vitesse incroyable, qui atteint des tailles avec les pinces qui approchent les 25 cm, avec mesuré du bout de la queue jusqu'au bout des pinces. Donc c'est une grosse écrevisse, mais qui a la fâcheuse tendance de creuser des galeries dans les berges et de faire effondrer les berges, de créer des fuites d'eau dans les plans d'eau. C'est son côté un peu négatif. On a trouvé aussi, tout dernièrement, en pêchant l'étang du bois de Boulogne, un couple, et dans un bout de tout petit lac, un couple d'écrevisses de Turquie, de taille phénoménale. Le mâle faisait 25 cm, ce qui est très exceptionnel pour des écrevisses cette taille. Et la femelle faisait à peu près une vingtaine de 18-20 cm. Alors bon, ça aussi c'est une introduction qu'on trouve trop souvent à Paris, parce que les gens ont tendance à ramener leur petit coin de nature dans leur appartement, avec les poissons exotiques, des petites bêtes exotiques de toute nature. Et puis malheureusement, lorsqu'arrivent les vacances, ces gens veulent s'en débarrasser. Quand c'est des poissons, on ne regarde pas, on jette des poissons exotiques, des poissons rouges, des poissons enfin de toutes les couleurs, des tortues de Floride, on a, je vous dis l'exemple des écrevisses. Alors on jette ça, on va amener ça dans les plans d'eau, et puis on ne se doute pas qu'on arrive à poser des problèmes, puisque ces poissons, quelquefois, contre nature même, et contre l'avis de scientifiques, arrive à à frayer avec d'autres poissons, et on arrive à avoir des espèces croisées qui donnent pas toujours des poissons intéressants, d'abord pour la pêche et pour l'habitat, et qui sèment des désordres dans les autres populations. Une autre capture encore à signaler, qui est vraiment une capture exceptionnelle, c'est notre fameux poisson piranha, le dévoreur de... Eh bien, il a été capturé un piranha dans le canal de Saint-Martin, et juste en face d'une revue halieutique, d'ailleurs, qui a des connaissances de la pêche à l'époque. Le pêcheur a attrapé ce poisson, et il s'est dit « qu'est-ce que c'est ? J'ai jamais vu un poisson comme ça ». Il a tout de suite été voir les journalistes et pour leur montrer la bête, et comme il y a des spécialistes qui pêchent dans toutes les eaux du monde entier, et ils l'ont gardé dans un aquarium et tout. À l'époque, quand moi-même m'a téléphoné, j'ai été le voir, j'ai dit c'est pas possible, un piranha qui faisait une vingtaine de centimètres. Donc c'est quelqu'un qui avait dû le rejeter, ou alors même comme... ou même qu'il l'ait perdu accidentellement. Hein.
On peut dire accidentellement. On l'a promené au bord du canal.
Alors, un autre type d'introduction qui maintenant est devenu... commence à proliférer, il nous inquiète un peu aussi, même si c'est marrant. C'est la tortue de Floride. Bon, la petite tortue de Floride, grosse comme une pièce de 5 francs qu'on achète pour le gosse. Bon, ben, au bout d'un moment, on la balance dans le caniveau, où on va la mettre aller au bois de Boulogne, ne pensant peut-être pas qu'elle va survivre, mais pour ne pas la détruire devant l'enfant. Et là aussi, au lac Saint-Jean, quand nous l'avons vidé, nous en avons trouvé une colonie de 11. Et 11 bestioles qui étaient comme des assiettes. Parce qu'en milieu naturel, elles grossissent. C'est comme les poissons. Hein. Ils calquent leur grossissement et leur taille suivant le récipient où ils sont entreposés.
Et c'est extraordinaire.
Oui, c'est extraordinaire. Et puis ces tortues, justement, nous pensions qu'elles mouraient en l'hiver et tout ça. Ben non, maintenant. Alors, on en a, je vois au lac supérieur, je sais qu'il y en a 2-3 parce qu'on les voit de temps en temps. Je ne sais pas si elles se reproduisent. Ça, je n'oserais pas l'affirmer. Alors, c'est extrêmement marrant, mais enfin, ça nous laisse quand même, ça nous fait poser des questions sur l'adaptation des espèces, exotiques à nos eaux. Hein.
Donc, la Seine, c'est un endroit vivable pour les poissons. Est-ce qu'ils peuvent aussi s'y reproduire?
Alors, jusqu'à ces dernières années, il y avait les problèmes des rejets dans Paris qui, maintenant... On peut considérer qu'il n'y en a pratiquement plus, à part en période d'orage, quoi, des versements accidentels. Donc on a vu revenir un certain éclaircissement de l'eau, une certaine qualité d'eau, et automatiquement, cette eau s'éclaircissant et tout, les phénomènes de photosynthèse sont développés, et on a vu apparaître des herbiers. Bon, c'est un peu le paradoxe. À l'heure actuelle, on en a de trop dans Paris. Au dire de la navigation, pas pour nous pêcheurs, puisque nous, il n'y en a jamais de trop, à part lorsqu'elles encombrent toute la rivière. Mais là, pour nous, ce sont des frayères naturelles. Et partout où ces frayères naturelles se sont développées, nous avons assisté à une remontée d'abord du nombre des espèces. Et nous avons vu réapparaître, ce qui est très intéressant et que nous n'avions pas dans la capitale, c'est des juvéniles, c'est-à-dire des poissons avec des tranches d'âge équilibrées, du plus petit jusqu'au plus gros. Alors qu'avant, nous n'avions que des gros poissons qui venaient occuper les niches écologiques, mais qui avaient des gros déséquilibres dans la répartition des âges. Mais il y a des coins quand même où on peut pêcher, et des coins qui sont calmes. Je vois l'île Saint-Louis, il y a même des parties où les gens ne descendent pas, surtout sur côté envers le face de l'hôtel de ville. Des points, par exemple, au moment des carnassiers, lorsqu'il fait froid, que les gens ne circulent pas trop, c'est la pointe de l'île de la Cité, en face de l'hôtel de la Monnaie, qui est un excellent coin de pêche pour le cendre et pour l'anguille. Dans le coin, là, en descendant, justement, un peu plus bas que l'hôtel des Monnaies, il y a 2 ou 3 pêcheurs des anciens qui sont spécialistes de la pêche à l'anguille et qui attrapent des quantités industrielles d'anguilles tout au long de l'année. Vous avez après les nouveaux quais, alors là, qui vont être super, c'est tout le long du Louvre, des quais qui ont été aménagés. Alors vous avez des coins aussi qui sont super, où là, il y a un peu plus de commodités. C'est par exemple l'île aux Cygnes. L'île aux Cygnes, un des meilleurs coins. C'est le meilleur coin de pêche de Paris.
L'eau y est très claire aussi, je crois.
Oui, l'eau est très propre, très calme. Il y a beaucoup d'herbiers. Et tous les sondages ichtyologiques que nous avons faits ont révélé pratiquement toutes les espèces présentes dans ce secteur. On y prend de très grosses carpes, des perches, du gardon. Et il y a beaucoup de carnassiers également. Et après, en descendant, toutes les îles Seguin, l'île de la Jade, l'île de Puteaux, tout ça sont des coins un peu naturels. Alors là aussi, il faut parler des canaux. Alors les canaux sont très très poissonneux, hein, tout le canal Saint-Martin, le canal de l'Ourcq, le canal de Saint-Denis, qui sont très réempoissonnés énormément tous les ans. Et puis le fameux bassin de la Villette, qui est superbe, où nous avons fait l'année dernière donc le concours de pêche des gamins de Paris pour la fête nationale de la pêche au mois de juin, où nous avions fait un concours avec 550 enfants de 10 à 12 ans. C'était quelque chose de phénoménal de voir tous ces enfants alignés. Et puis nous avons vu défiler 2000 enfants sur le week-end qui sont venus attraper leur truite. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et puis alors, dans les bons coins aussi, alors là, avec des eaux un peu plus faciles à pêcher, parce que la Seine, quand même, par endroits, requiert des techniques assez pointues, vu que ce sont des grands fonds, il y a du courant, c'est des pêches un peu spéciales. Alors là, vous avez les étangs. Les étangs qui sont un peu plus faciles à pêcher. Dans le bois de Vincennes, vous avez 4 étangs qui représentent à peu près une vingtaine d'hectares. Vous en avez 8 aussi dans le bois de Boulogne qui représentent plus de 25 hectares. Et puis le petit plan d'eau dont je vous disais des buts de Chaumont, qui fait 1,5 hectare, où il y a énormément de pêcheurs, mais surtout beaucoup de retraités et beaucoup d'enfants. On trouve les deux extrêmes, justement, qui cohabitent très bien, d'ailleurs. Mais il faut savoir que les gens passent de bons moments et ne s'ennuient pas. Et ce qu'il y a dans la pêche, comme dans d'autres sports qui se rapprochent de la nature, c'est qu'il y a toujours une certaine convivialité. Et nous tendons, justement, à favoriser cette convivialité. Dans des quartiers, vous avez des groupes de retraités, des petits clubs comme ça qui se créent, qui se rencontrent au bord de l'eau tous les jours. Je vois principalement, vu l'âge de certaines personnes, dans les étangs du bois de Boulogne, de Vincennes, même le petit plan d'eau des buts de Chaumont. Nous avions des retraités qui restent à Paris, qui ne sont pas repartis en province. Et c'est en ce moment, par exemple, où les plans d'eau sont pris par la glace, c'est un malheur pour eux parce qu'ils peuvent pas. Mais ils sortent quand même le bout de leur nez, ils vont se rencontrer, discuter le coup. Mais c'est le point de rencontre autour du plan d'eau. Et je dis que c'est une chose qu'il faut qu'on favorise dans la région parisienne. Et nous avons été plus loin parce que nous avons voulu aussi amener les jeunes. Parce que j'estime que les jeunes, lorsqu'on les amène à la nature, ça leur donne un autre regard. Ils peuvent même dans leur milieu urbain s'apercevoir qu'il y a une quantité de vie phénoménale. Et donc la meilleure façon d'amener ces enfants à réfléchir et à se poser des questions sur l'environnement et à le respecter, l'environnement, c'est de leur faire voir ce qui y vit et les amener par la pêche. Alors donc des mesures incitatives. D'abord nous avons créé des écoles de pêche qui sont très actives, et puis quand je vois tous ces jeunes qui viennent, comment ils se deviennent acharnés, mordus, c'est quelque chose de phénoménal. Et nous avons même poussé plus loin, nous leur avons fait la carte de pêche gratuite pour les moins de 16 ans. Et ça, je peux vous dire que ça a pris une ampleur même qui nous a surpris. Rien que dans mon association, qui a plus de 4000 adhérents, ça représente cette année 35% de jeunes. Mais ce qu'il y a qui nous fait encore plus plaisir, c'est que la première année, ils veulent la carte de pêche gratuite, qui leur donne le droit de pêcher à une ligne. Mais l'année d'après, ils ne s'en contentent plus, ils veulent la carte de pêche de membres actifs pour aller pêcher à Catigne, au Lancé et tout. Ça devient de véritables mordus. Et on a su faire passer un certain message avec les élus, à tel point qu'on a des maires qui nous disent « Ah bon sang, emmenez-les tous à la pêche et qu'ils ne fassent plus de bêtises dans les soirs et tout ça ». Et c'est vrai que même les parents disent que les gosses ont une autre attitude. Hein, et même sont devenus un peu moralisateurs pour tout ce qui touche à l'environnement. Et donc le poisson en est un élément, la pêche en est un autre. Mais également tout ce qui vit autour, c'est les oiseaux, c'est nos gardes-pêche. Lorsqu'on a des périodes de crue, ils connaissent tous les nids de poules d'eau, de canards, parce qu'il y a énormément de bêtes qui vivent au bord de la Seine. Lorsqu'il y a une période de crue, les pauvres bêtes ne peuvent pas remonter leur nid, surtout au printemps. Alors c'est nos gardes-pêche et nos pêcheurs qui leur remontent le nid pour qu'ils soient à l'abri de la crue, même si quelquefois ils sont un peu envahissants. Je pense particulièrement aux canards. Lorsqu'on amorce dans l'eau, ils croient que c'est pour eux de la nourriture et ils viennent occuper la place devant les cannes à pêche. Alors bon, il faut un peu faire de la place, quoi. Mais enfin, ça fait partie du jeu. Et je crois qu'un endroit vivant, des endroits vivants, on en a besoin, surtout lorsqu'on vit à Paris.
Le serpent s'esquiva, mais le regard qu'il me lança resta dans l'herbe. nuit magnétique. Ce soir, Claude Farny cherchait les petites bêtes en compagnie de Dominique Robert, Madame Saint-Giron, Vincent Lacroix, Monsieur Douillard et son équipe, François Turpin, Monsieur Armirail. L'ont accompagné dans cette recherche Guy Senot, Stéphane Clergironnet, Jean Couturier et Bobby Lapointe.
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie, et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Si petit l'aime bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux ouïes, leur montre en comment sans ennui, on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des rêbles sur le dos dans un banc à peinture fraîche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, j'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique, ah qu'est-ce que tu me fais marrer. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien gentille.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 mars 1991.